Bonjour, c'est Laurette. J'appelle pour dire à toutes les jeunes filles et à tous les autres qu'il faudrait peut-être se réveiller un petit peu, parce que moi je suis intermittente du spectacle, donc j'ai déjà plein de raisons d'être un petit peu fâchée ces derniers temps, mais là ils m'ont fait sortir de mes gonds. Un jour vous allez tous vous réveiller, hein, et toutes surtout, et vous aurez perdu tout ce que vos mamans, vos grand-mères, vos arrière-grand-mères avaient gagné pour vous. On a le droit de vote depuis 45. Non, mon utérus n'est pas la propriété d'un gouvernement. Salut. Gros bisous, Daniel.
Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il était possible de commander ou d'acheter le CD, éventuellement, s'il existe des intermittents du spectacle qui nous font tant rire, là, avec Raffarin, tout ça, parce que je serais très désireux de l'avoir. Je trouve que ce serait un joli cadeau. Enfin, si ça existe, même, en plus. Si ça existe, parce que je ne sais pas. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Oui, enfin, ça fait pas rire tout le monde, hein. Ça fait pas rire tout le monde. Enfin, c'est vrai qu'on a eu beaucoup, énormément, un genre d'auditeur qui s'amuse. Alors, on a appris de la part de ces interlutants, de Lorraine, qu'il était possible, effectivement, d'obtenir ce qu'ils appellent une compile. Vous savez, ce sont des jeunes, ils disent des compiles. Avec intitulé Chants et danses du MEDEF. Chants et danses du MEDEF, donc la compile des interlutants de Lorraine. Et alors pour ça, il faut leur taper, vous savez, sur le, comment ils en disent les jeunes, Internet. Voilà. Alors il faut faire label. Point, alors il faut écrire label L-A-B-E-L. Point usine, comme une usine, @ wanadoo.fr. Je répète, label.usine@wanadoo.fr pour Chants et danses du MEDEF. Aujourd'hui, amis auditeurs et auditrices, on va retrouver Siegfried et Mandoline. Une belle histoire, enfin belle, vous allez voir. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, au sujet, beaucoup de messages au sujet de la série qui s'est achevée hier, l'émission sur les mineurs délinquants.
Oui, bonjour, Michel de Soissons, Daniel Mermet, je viens d'entendre le chant des partisans par les interlutants et je trouve cette occupation acceptée tout à fait génial. Encore merci pour cette fraîcheur.
Et il est absolument indécent de se servir du chant de la résistance, de milliers de gens qui se sont fait fusiller, torturer pour libérer le territoire, pour votre connerie. Bonsoir.
Bonjour Daniel et bonjour l'équipe de la MAF si j'y suis. Alors c'est un message pour dire que les associations de chômeurs ACM, NCP, APES et la CGT chômeurs appellent à manifester le samedi 6 décembre contre le chômage et la précarité. Donc le rendez-vous est à 14h à Denfert Rouchereau. Venez nombreux pour manifester contre tous ceux qui veulent faire des chômeurs des coupables, parce qu'il y en a beaucoup quand même, entre l'UNEDIC et ses partenaires sociaux, le MEDEF, la CFDT, la CFTC et CGC qui ont signé un protocole mais vraiment dégueulasse il y a un an de ça et que Monsieur Fillon a agréé en février 2003. Protocole dégueulasse parce qu'il va supprimer les allocations d'au moins 250 000 personnes au 1er janvier 2004. Enfin bref, il y en a marre quoi de la casse sociale. Là c'est vraiment de la fracasse sociale. Il y a vraiment de quoi se mobiliser en faveur des ASS, donc où on revoit leur système d'indemnisation, contre le RMA qui est un projet rétrograde qui brade le coût du travail. Donc voilà, manifestation le samedi 6 décembre, venez très nombreux et donc à très bientôt. Ciao.
Annie d'Orléans, je suis révoltée par ce qui se passe dans les universités. On ne parle que de l'uniformisation des diplômes. Alors, ce qui est en jeu, c'est la privatisation des universités parce qu'on va faire rentrer des fonds d'entreprises dans les universités. Il y a déjà une éducation nationale à deux vitesses. Moi, j'ai fait mon fils qui a fait ses études Henri IV et ma fille a un lycée Colbert dans le 18e. Ça n'a rien à voir alors que ce sont deux lycées laïcs. Donc, il faut se battre pour que les universités et l'éducation restent gratuites et qu'elles soient accessibles à tous. Au revoir.
Tes arrière-petits-enfants, Mermet, ils verront une société sans prison pour la bonne raison qu'ils seront tous soumis à la loi de la charia, parce qu'avec des mecs comme toi, ils seront tous soit musulmans, soit morts.
Oui, bonjour, Jacques Galinck, en retraite à Coubizou dans l'Aveyron. Je commence le message, monsieur Daniel Mermet, je viens d'écouter l'émission. Alors, tout commence à l'école. Dans les cités, les caves et les cages d'escalier, c'est trop tard. Il faut mettre les médiateurs, éducateurs, grands frères et psychologues dans les classes où tout commence. Jacques, gentil enfant d'Aubervilliers et enseignant retraité qui sait de quoi il parle. Bon courage à monsieur Daniel Mermet.
Oui, bonsoir. Bonsoir, Daniel Mermet. Mermet, j'insiste. Je voudrais savoir quand est-ce que tu arrêteras, s'il te plaît, de faire l'éloge de l'immigration à tout va. Deuxièmement, de faire l'éloge des prisonniers et des gangsters sur le territoire français. Et je voudrais te poser la question suivante. Quand est-ce que tu gaspilleras de gaspiller nos taxes et nos impôts? Et dernièrement, quand est-ce que tu quitteras toi-même le pays? Peut-être nous serons tranquilles et pourrons écouter autre chose. J'assume tout ce que je dis est fait et j'aimerais des émissions un peu plus qualitatives. Merci, au revoir.
Salut à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. Donc c'est voilà, au moment où la droite-gauche parle du 20e anniversaire de la marche des beurs, le MIB donc organise ce samedi 6 décembre 2003 à la salle de la Légion d'honneur à Saint-Denis, donc à la mairie de Saint-Denis Basilique, de 14h à 19h, une diffusion de film qui s'appelle Douce France, la saga du mouvement beurre, plus débat après avec le public. Donc vous êtes évidemment tous les bienvenus et toutes. Pardon, et puis bon courage à Mermet et à la base, ici, voilà, c'est le MIB, mouvement immigration des banlieues. Merci.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Otter. Là-bas, si j'y suis, Siegfried et Mandoline.
Flight number 2, arriving from...
Ils nous ont tendus sur la place publique, à la mur, sur le parvis de la mairie, un dimanche matin. Et quand on passe là, dans ce village, dans ce pays-là, eh bien moi, je regarde pas. Je suis dans la voiture, je ferme les yeux le temps qu'on traverse le village et surtout devant la mairie. Voilà, je préfère pas. Ah oui, ben oui, mets-toi ma place.
Votre père vous a parlé quand il vous a vu avec la tête rasée comme ça?
Ah, il n'a pas pu parler, mais il pleurait. Ah, j'ai jamais vu un homme comme ça. Pourtant, c'était un dur à cuire. Hein. Jamais. Ça m'était toujours resté. T'as pas honte? Ton frère, au maquis du Glaisin, qui est un maquis qui était renommé pour... Et toi, salope, et la fille du bordel lui avait dit, pauvre con, dans une famille, il faut tout, que tu nous emmerdes, hein, pauvre connard. Tu sais pas que dans une famille, il y a toujours un canard boiteux? Tu voudrais bien te l'envoyer, hein, le petit canard boiteux, là, mais il n'est pas pour ton cul. Alors, qu'est-ce qui t'a plu chez ce boche? Il l'avait en velours. Alors moi, je disais rien. La prostituée disait, oui, et c'est la première fois qu'elle en voyait une en velours. Bon, cul international. Aujourd'hui, je serai avec les Américains. Est-ce que j'en ai à foutre de votre connerie? T'es
Écoutez, c'était en août, mais je peux pas vous dire la fin août, quoi. En 44.
Vous vous souvenez précisément?
Ah ben, je me rappelle, oui, parce qu'ils nous jetaient des pierres. Et des pierres grosses comme ça. La marée chaussée nous a accompagnés jusqu'en haut, comme si on allait à l'échafaud. Alors ils nous ont mis sur une chaise et puis avec la tondeuse.
Siegfried et Mandoline, Mandoline et Siegfried. Une histoire d'amour et de gare. On voit la forêt noire, on voit la frontière, on voit les enfants blonds, on voit la valse. L'allemand, le train, la lettre, les adieux sur le pont, le piano de la guerre. Ça fait roman, feuilleton, j'attendrai ton retour, chante Mandoline, comme Rina Ketty et Siegfried, le bel allemand blond qui laisse passer les FFI. C'est ça, à peu près seulement. À peu près, c'est comme un sale point noir qui reste sur la peau de la mémoire malgré le maquillage. Il ressort comme une sale histoire, une histoire moche, l'histoire des tondus. Oui, Mandoline le fut, tondu. On se souvient, Nevers, Hiroshima, mon amour, et la chanson de Brassens qui fit grand scandale à l'époque. 20 000 femmes en France furent ainsi tondues à la libération et avant la libération. On a tous en tête la photo de Capa, la tondue de Chartres. On voit la populace, ce que nous avons de plus bas, le lynchage, le crachat, salope, traînée, paillasse à boche. Oui, les femmes servirent d'exutoire à la haine, à la honte collectivement accumulée pendant ces années. Une histoire passée sous le tapis de l'héroïque résistance, FTP, FFI, qui sauvèrent la France tandis que les femmes étaient humiliées par des hommes frustrés. Siegfried, Mandoline, le temps est passé. Siegfried n'est plus, Mandoline toujours là, est bien voulu nous raconter l'histoire. Elle n'a jamais dissimulé cette histoire, mais en nous la racontant, c'est une grande confiance qu'elle nous fait, qu'elle a fait à Claire Auter et qu'elle vous fait. Elle espère que nous saurons tirer les leçons de son témoignage, mais aussi parce qu'elle nous fait comprendre qu'on ne peut pas vivre sa vie sans la comprendre. Elle nous fait comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre dans la vie de n'importe qui, ce qui fait de chacun cet irremplaçable prochain. Brassens a chanté cette chanson de la tondue, il a rendu un hommage. Et cette chanson, je le disais, a soulevé un grand malaise dans notre France, pas toujours aussi douce que chez Charles Trenet. Une page très moche de notre histoire et qu'on a passé sous silence. Un homme pourtant, un poète rare, dans un poème rare, a évoqué les tondus. Comprenne qui voudra, moi mon remords ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime raisonnable à la robe déchirée. Paul Éluard.
Verzeih mir, wenn es schon spät ist, doch ich ruf dich an, weil ich es gar nicht glauben kann, was du mir schreibst. Soll alles aus sein, ist der Brief dein letztes Wort? Du schreibst mir wörtlich hier, heut willst du fort. Sag mir nicht adieu, sag nur auf Wiedersehen, denn du kannst ja nicht von mir für immer gehen. Einmal kommt vielleicht ein Tag, ein Augenblick, da führt dich der Weg in meinen Arm zurück. Sag mir nicht adieu, sag nur auf Wiedersehen, denn von heute auf morgen kann so viel geschehen. machte Napschi kurz, du musst ja gehen, sag mir nicht Adieu. Auf Wiedersehen.
Je suis née dans le Nord-Isère, à 40 km de Lyon, mais sur l'Isère. Ça s'appelle Bourgoin. Et lorsque j'ai eu avec mon frère 4 ans, en 1925, nous sommes partis en Lozère. Parce que mon père, il avait été désigné pour aller installer dans ces régions l'électricité, parce qu'il n'y en avait pas, le Gévaudan. Toutes les là-bas, les déserts du Gévaudan et tout ça. Et après, il est venu à Grenoble. Nous sommes arrivés en 39 dans cette maison au mois de mars. Et la guerre a éclaté en septembre. Le 39-40, j'avais 18 ans.
Voilà, aujourd'hui, Mandoline, on l'appelle Mandoline, on va l'appeler Mandoline, elle s'appelle en vérité Madeleine, a 81 ans, et elle a bien voulu, elle a voulu raconter son histoire, cette histoire, ce moment particulier de sa vie où elle fut tondue. À la Libération, même avant, je le disais, au total, environ 20 000 femmes furent ainsi tondues. C'est une histoire qu'on n'aime pas beaucoup évoquer. Il y a très peu d'histoires sur cette histoire. Il y a eu le livre d'Alain Brossa, qui l'a intitulé « Un carnaval moche », qui date de 1993. Et puis récemment, un livre de l'historien Fabrice Virgili, qui s'appelle « La France virile », et qui s'est sous-titré « Des femmes tondues à la Libération ». Et ça, c'est une étude très, très poussée, très, très fouillée, dont l'auteur conclut que ce règlement de compte fut pour les hommes à l'époque une façon de reprendre le contrôle du corps des femmes. C'était pour ces hommes humiliés par ces années d'occupation et de domination le moyen de réaffirmer leur place et d'affirmer, de montrer leur virilité en abaissant les femmes par cette punition sexuée, puisque il s'agissait des cheveux des femmes, qui évidemment on peut renvoyer, si on veut, à un symbole de castration. C'était un rituel qui était vraiment mis en place, une petite estrade sur la place de la petite ville, et puis les femmes traînaient à travers la ville sous les insultes, les crachats. J'évoquais tout à l'heure la fameuse photo de Capa, il y a eu de nombreuses photos. Parfois, on allait encore plus loin, les femmes étaient maquillées d'une croix gammée sur le crâne et sur la poitrine. Qui étaient les auteurs, qui étaient les tondeurs? Fabrice Virgili dit à quel point lui était difficile, sinon impossible, de retrouver évidemment des témoignages de tondeurs. Et puis des archives, ben il y en a très peu, des traces, il y en a très peu. C'est une image moche qu'on a essayé d'oublier. Mais qu'évidemment, une femme comme Madeleine, elle n'a pas du tout oublié. Voici l'histoire de Mandoline.
J'avais une amie qui travaillait à Aix-les-Bains, là à côté, dans un hôtel. Elle m'a dit, oh là, mais pourquoi tu viens pas? Mais viens, elle dit à mon père, laissez l'avenir travailler avec moi, c'est intéressant, c'était la guerre, mais c'était pas l'occupation, c'était pas occupé encore. Et elle m'a fait embaucher dans l'hôtel avec elle. Et elle était femme de chambre. Et moi, j'étais au service restauration. J'ai appris comme ça sur le tas. Et puis, un beau matin de 42, il est arrivé à l'hôtel un employé de la mairie d'Aix-les-Bains et qui a rassemblé tout le personnel. C'était un hôtel qui était conséquent. Il avait bien 18 employés. Il a dit, alors écoutez, voilà, c'est l'occupation, les Allemands vont occuper toute la France. Et ils réquisitionnaient les hôtels à Aix-les-Bains. Alors ils nous ont dit, voilà, vous avez le choix, ou vous restez travailler à l'hôtel, mais avec eux, ou alors vous partez en Allemagne. Vous savez, le travail obligatoire, à l'époque. Et puis il fallait pas broncher, attention, hein. C'est que... Vous avez compris, hein? Bon. Alors, on est restés. Nous sommes restés. Parce que de tous ces hôtels, ils en ont fait des hôpitaux. Parce que c'était pendant la bataille de Cassino, en Italie. Et les Allemands, en Italie, à Cassino, ils ont pris la piquette. Et comme il y avait cette bataille, Ils avaient réquisitionné tous les hôtels de Daix-les-Bains, l'hôtel international, l'hôtel de la cloche, l'hôtel de ci, l'hôtel de là, au bord du lac, c'était tout occupé par eux. Et un beau matin, il est arrivé des trains qui venaient de Cassino. Et ils ont, de tous les wagons, ils ont descendu les blessés, il y en a qui étaient morts, des blessés sur des brancards, et ils ont tout rentré à l'hôtel. Ils m'ont appris à faire les piqûres. Les piqûres sous-cutanées, les piqûres intraveineuses et sous-cutanées, il manquait beaucoup de personnel du fait que c'était presque la fin, il y avait plus d'hommes, il y avait et tous les hommes ils partaient à la guerre, ils les mettaient pas. Alors j'étais quand il y avait des opérations, des choses comme ça, j'allais dans la salle d'opération avec la blouse et le masque et puis je les voyais scier les jambes des jeunes qui hurlaient, qui et les l'anesthésie et tout ça. Et puis alors après l'opération, eh bien on débarrassait, puis on emmenait les jambes et les bras brûlés dans la chaudière. Et mais moi j'ai vu la bataille de Cassino à l'hôpital, des brancards avec des jeunes de 18-20 ans qui mouraient là dans le couloir de l'hôpital parce qu'ils étaient blessés. Un jour il y en a un qui tendait les bras comme ça, et je me suis approchée, je me suis assise sur le parterre, et je me suis assise à côté de lui, et il me disait, Mouti, tu bis da, maman, tu es là. Je disais, ya, je bin da. Je vais pas mourir, je dis, non, tu es pas. Puis il est mort comme ça, il avait 18 ans. Et c'est là que j'ai connu Siegfried. Il était adjudant-chef sanitaire. Il y avait une cloche qui a sonné et le patron de l'hôtel nous a dit « Allez, descendez, on vous demande tous en bas. » Moi, je suis descendue. Je suis descendue sur la rampe d'escalier, moi.
En glissant ?
C'est pas vrai. Si, on était au troisième étage. Et quand je suis arrivée dans le hall, paf, comme ça, je me suis trouvée juste devant Siegfried qui était là avec son chien. J'avais une jupe noire, une petite jupe noire, vous savez, en forme comme ça, et un petit corsage bleu. Alors, quand j'ai lâché la rampe, j'ai fait comme ça, il était là. Ah, regardez.
Comment il était?
Ah ben, il était. Ben, attendez, j'ai bien une photo là. En 43, il a 23 ans. Il faisait quand même 1m70, oui. Et puis il était mince, il était blond, les yeux bleus.
Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui tout de suite?
Mais je sais pas, il était, comment vous dire, c'était quand même, parce que à l'époque, quand on parlait des Allemands, peu ou prou, on avait peur, hein. Mais là, il avait, vous voyez ce visage souriant comme ça?
Ah oui.
Il était comme ça.
Vous vous souvenez le jour où il vous a fait sa déclaration?
Je sais pas. Allez. Avec mon ami René, là, on n'avait rien à manger. Alors, vous savez. Alors, il nous avait invités un soir avec dont l'ingénieur qui parlait français. Il s'appelait Charles. Didit, est-ce que vous voulez ce soir manger un peu? On aura des côtes de porc avec des frites. Alors, René me dit, allez, viens, écoute, moi, j'ai faim. Alors, on est allés, tous les quatre. Et puis, ils ont parlé en allemand. Et puis, Karl, il a dit à René, il parlait bien français, il a dit à René, viens, je vais te montrer quelque chose. Alors ils sont sortis, puis ils m'ont laissé. Et là, Siegfried, il a fermé la porte. Il m'a dit, maintenant, ça suffit, hein. Maintenant, tu es là, tu restes là, hein. Alors, bon, ça commençait comme ça, quoi. Mais j'aurais jamais pensé, vous savez, on est jeune, on est un peu bené.
Qu'est-ce qui vous a plu chez lui?
Je dois vous dire que c'était un garçon et qui était très gracieux. Il était très souriant. Il avait des beaux yeux bleus. Il était, comment vous dire, il était, et pas comme, moi j'en ai beaucoup vu parce que à Gap il y avait la commandature, ils étaient de l'autre côté du boulevard et ils venaient se faire soigner, il y en a qui étaient malades, c'était dans les SS, mais ça n'avait rien à voir parce que ceux-là quand ils arrivaient, on voyait vraiment que c'en était. Et je te tape les talons, que Siegfried, jamais. C'était un monde à part. D'ailleurs, ils s'aimaient pas, la Wehrmacht et les SS. Mais moi avec Siegfried, ça n'a pas du tout été politique. Il me disait, tu sais, il faut pas mettre tous les Allemands dans le même sac. C'est pas parce qu'il y a un Hitler là, on n'est pas comme ça.
Insigne qu'il a là,
c'est le sanitaire, les insignes de la Croix-Rouge. Mmh. Et puis ça, c'est la croix de guerre, parce qu'il était à la bataille de Stalingrad, là.
Ça, c'était l'hiver 42.
41-42. Toutes les familles ont été touchées par la campagne de Russie, la guerre de Stalingrad, la bataille de Stalingrad. Dites, vous vous rendez compte, ces jeunes de 19-20 ans, les moins 60, la nuit.
Pour Siegfried, ça avait été terrible, Stalingrad, les souvenirs.
Oui. Il avait 19 ans. Ils étaient dans les plaines de près de Stalingrad, et il faisait moins 60, il y avait de la neige jusque-là.
Jusqu'au ventre.
Oui. Et la bataille avait été très dure, et il y avait des chevaux qui étaient morts. Et pour se cacher des Russes, pour pas partir en Russie prisonnier, ils avaient ouvert le cheval et ils se sont cachés dedans, dans les entrailles et dans tout le truc. Et puis, un moment après, peut-être 2 heures après, ils ont entendu parler allemand. Et puis, c'était vraiment des Allemands qui cherchaient leurs blessés et tout ça pour les rapatrier à l'arrière, qui s'étaient avancés dans les plaines. Parce que les Russes, vous les voyez pas arriver, c'était habillés tout en blanc. Tous ceux qui avaient fait Stalingrad, ils avaient la croix de fer. Parce que c'était pas ceux qui, quand ils partaient à l'attaque, il y en avait la moitié qui y restait. Un jour, il y en a un qui tendait les bras comme ça, et je me suis approchée, je me suis assise sur le parterre, et je me suis assise à côté de lui, et il me disait, Mouti, tu bis da, maman, tu es là. Je disais, ya, je bin da. Je vais pas mourir, je disais, non, tu es pas. Puis il est mort comme ça, il avait 18 ans.
Mouti, tu bis da. Pas mal pour une fois d'avoir une pensée pour ces combien millions d'Allemands qui sont morts sur le front de l'Est. On sait qu'au total c'est 29 millions de Soviétiques qui sont morts pendant cette deuxième guerre mondiale. Je ne sais pas combien à Stalingrad lors de cette bataille. L'histoire qu'on raconte, eh ben voilà, ça remonte à 60 ans. La grâce a voulu que Mandoline soit toujours là, 80 ans, pour l'évoquer, pour nous raconter cette histoire et comment elle fut avec d'autres femmes naïvement amoureuses, petites bonnes, victimes innocentes des rancunes et aussi parfois des délatrices. Il faut le dire aussi, des femmes qui furent condamnées à la libération à être tondues. 20 000 femmes furent ainsi tondues. On le verra, Madeleine nous le dira un peu plus loin, Mandoline va nous le dire, à la différence des prostituées. Les prostituées n'ont pas tellement subi ce châtiment. À l'époque, on considérait qu'il était plus condamnable de donner son corps que de le louer. Mais on n'est pas là, pour l'instant encore, avec son fiancé, son amant, il faut dire les choses, son amant allemand. Eh bien, Madeleine est là, dans cette ville, et un soir, de courageux miliciens viennent faire à Siegfried, le Feldwebel, des confidences. Il y a eu beaucoup de délations durant ces années noires. «
Le soir au studio, on jouait aux cartes. Après, il parlait bien français, Siegfried, à leur tour. Et puis un soir, on a frappé à la porte. Et il y a une sentinelle qui est rentrée, qui a dit à Siegfried, Faiblebel, il y a deux Français qui voudraient vous parler. Alors il a dit, bon, ben fais-les monter. Il m'a dit, Madeleine, mets-toi dans le placard, cache-toi dans la penderie. Et les deux, ils sont frappés, sont rentrés. Ils ont dit, on vient vous dire, Faiblebel, on vient vous dire que demain matin, alors ça, mon petit, comme vous êtes devant moi, je l'entends encore. On vient vous dire que demain matin, vers les 4 heures, il partira de Gap pour aller sur Embrun, un détachement de résistants qui rejoignent un village des Hautes-Alpes. Et à tel endroit, le nom je sais plus, un passage, là vous pouvez les arrêter, comme je vous vois, Claire.
Mais pourquoi est-ce qu'ils y sont pas allés voir plutôt la SS?
Ah, ils avaient la trouille. Les SS, ils avaient peur des SS. Malgré qu'ils étaient miliciens, ils avaient peur. Les autres, c'était Hitler, hein, c'était...
Et qu'est-ce qu'il a fait, Siegfried, alors?
Alors, attendez, ah bon? Alors, Siegfried a dit, ah bon, ben merci beaucoup, alors c'est demain, oui, demain. Alors, il lui avait donné un papier avec la route, le milicien, les deux. Alors, quand ils ont été partis, il a ouvert la penderie. Il m'a dit, tu as entendu? J'ai dit, oui, j'ai entendu, oui. Il a dit, ben, ils attendront, hein. Les résistants, ils passeront, il y aura personne. Et les résistants, ils sont passés le matin, il y avait point de... puisqu'ils n'étaient pas avertis.
Vous voulez me dire que Siegfried a protégé les résistants?
Il a tout compris, et c'est vrai. Il a déchiré le papier, il a dit, je n'ai rien à dire, moi je suis pas SS, ça me regarde pas.
Mais il prenait des risques en faisant
ça.
Ah
ben oui, mais il s'en foutait. Et les autres, on les a jamais revus, hein. Eh ben ça, ma petite Claire, ça, vous voyez, j'ai entendu ça. Je les ai entrevus parce que j'étais dans le placard. Mais c'est plus dégueulasse que tout ce que vous voulez, ça. Et à l'hôpital, il y en avait un milicien. Il venait tout le temps à l'hôpital pour se faire radiographier, pour s'il avait une grande gueule. Et à la Libération, il s'est couché dans les lits. Parce que les Américains, ils sont rentrés à l'hôpital et il y avait quand même des blessés graves, il y avait des plâtres, il y avait de tout. Et les Américains, ils ont pris tous les malades, ils les ont mis dans leur camion et ils les ont descendus à Marseille. Ils avaient un très grand hôpital à Marseille, les Américains. Ils ont tout emmené. Mais quand ils ont chargé les petits Allemands, quoi, les blessés, il y avait des gapensais. Les résistants qu'ils connaissaient, celui-là. Ils ont dit aux Américains, non, celui-là, non, il reste là. Et quand le convoi est parti, les gars pensaient qu'ils connaissaient ce salopard, qu'ils savaient que c'était. Ils sont dû, il y avait presque tout le village. Ils l'ont tout déshabillé, ils l'ont promené tout nu dans la ville de Gap, et ils lui ont crevé les yeux avec une fourchette. On l'a entendu, et quand il a été mort, ils sont venus le jeter devant l'hôpital, devant le porche de l'hôpital. Oui, ça, c'était un vrai milicien. C'est suisse, c'est la pendule suisse, elle est vieille comme tout. Attendez. On était toujours avec les bains. Et puis un beau jour, ils ont reçu un ordre. Comme quoi, Siegfried, Karl en question, il devait partir à Gap pour monter un hôpital. C'était en janvier de 44. Et alors, dès que c'est bien, il m'a emmené à Gap. Je suis partie avec eux à Gap jusqu'à la Libération. Siegfried, un matin, il m'a dit, écoute, Madeleine, il faut que tu partes parce que maintenant c'est fini pour nous, et ils étaient déjà à Laval, là, dans l'Indre, vous savez.
Il m'a dit. Qui ça, les Américains?
Les Américains. Il m'a dit, il faut que tu partes parce que il va y avoir des embêtements. Thank you.
L'histoire de Mandoline, l'histoire de Siegfried avec le temps qui passe. Aujourd'hui, Madeleine a 81 ans. Ces histoires s'estompent petit à petit, jaunissent, s'éloignent et resteront longtemps sans doute entre les pages des albums de nos mémoires, de ces années noires dont on parle moins. Ces temps-ci, on a, croit-on, avaler, digérer, ça y est, nous sentons un peu plus apaisés vis-à-vis de ces années-là, sauf cette histoire dont on est peu fier, dont notre inconscient collectif est peu fier, d'avoir tondu 20 000 femmes à la libération. Et quand je dis la libération, c'est souvent avant la libération que ces tontes ont été entreprises, et souvent, je le disais, par d'héroïques résistants, des gens, des FFI, dans les maquis, des FTP. Bien sûr, à la libération, ça a été surtout le fait de ces gens, de ces miliciens, ou devenus résistants de la dernière heure sur le tard. Mais il faut savoir tout ça, il faut reconnaître tout ça. Le temps nous y autorise aujourd'hui.
Nous étions dans le train, puis ils étaient 4 ou 5, ils sont venus vers nous, ils nous ont fait lever des banquettes, puis ils nous ont dit « allez, suivez-nous ». Et ils ont fait arrêter le train à La Mure, là c'est un village à 50 kilomètres, et ils nous ont fait descendre. Alors moi qui fréquentais le Fête des Belles, et puis une autre qui fréquentait un cuisinier, et puis une qui était au bordel à Gap. Une jeune femme qui était au bordel. Mais elle a été très gentille, elle m'a toujours protégée, elle a été gentille avec moi. Alors ils nous
Comment
ont...
ça, elle vous a protégée?
Parce que les filles, ils m'ont tout volé, ils nous ont arrêtés, puis ils nous ont tout volé. L'argent, ils m'ont tout pris, mon argent. J'avais une photo comme ça, avec Siegfried dans mon sac. Ils l'ont déchirée, ils me l'ont jetée par la figure, en me disant, regarde ton boche, ce qu'on en fait. C'était les vacances encore, oui. Ils nous ont amenés dans l'école, parce qu'à l'époque, la rentrée des classes était le 1er octobre. Et là, je suis restée 3 semaines, 1 mois. On était 7 ou 8. Ils nous donnaient rien à bouffer, qu'un café au lait le matin. Et puis, ils venaient nous interroger. Et puis, là, ils nous interrogeaient pour savoir. Et puis, ils ont fait des recherches. Et puis, quand ils ont vu que moi, j'étais pas inscrite à point d'endroit, ni à la Gestapo, ni à la commandature, qu'on ne connaissait même pas la commandature et tout. Alors ils ont dit, bon, ben c'est une histoire d'amour, on va pas s'arrêter là-dessus. Ils m'ont lâché comme ça. Et c'est eux qui m'avaient tellement enquiquiné, qui m'ont ramené là chez moi. Et puis alors quand je suis arrivée là, bon, ben j'avais déjà plus de cheveux, hein. Alors je sortais pas, je restais là-dedans.
À vous, votre père vous a parlé quand il vous a vu avec la tête rasée comme ça?
Ah, il n'a pas pu parler, vous avez pleuré. Ah, j'ai jamais vu un homme comme ça. Pourtant, c'était un dur à cuire, hein. Jamais. Ça m'était toujours resté.
Mais, Mandoline, vous étiez enceinte à ce moment-là?
Oui, bien sûr. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 3 mois. 3 mois et demi par là.
Et vous, quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte, qu'est-ce que vous avez eu comme réaction?
Pas mal. J'étais jeune et bête. J'étais contente. Et ma mère, elle était allée chez un grand coiffeur là de Grenoble pour m'acheter une perruque. Je me rappelle toujours. En 44, elle avait payé la perruque 30 francs. Vous vous rendez compte?
C'était beaucoup d'argent.
En 44, il y a 57, 8 ans, vous vous rendez compte, 30 francs. Eh bien, depuis que j'ai eu les cheveux tendus comme ça, j'avais donc 28 ans, eh bien, j'ai jamais eu des cheveux aussi beaux. Thank you.
tué combien de femmes?
Deux, avec la celle-ci, là, toutes les deux, ils nous ont tombés le même jour.
Avec une, la prostituée?
Voilà. Il venait, il vous racontait des inepties. On a pris des renseignements. Ah bon? Et ton frère? On le sait où il est. C'est un chef au Glaisin, là-haut. T'as pas honte? Ton frère au maquis du Glaisin, qui est un maquis qui était renommé pour... Et toi, salope, et la fille du bordel lui avait dit, pauvre con, dans une famille, il faut tout, que tu nous emmerdes, hein, pauvre connard, tu sais pas que dans une famille, il y a toujours un canard boiteux, tu voudrais bien te l'envoyer, hein, le petit canard boiteux, là, mais il est pas pour ton cul. Oui, mais je te jure. Parce qu'ils avaient pris ma photo, j'avais ton père en uniforme, ils bien avaient sûr ouvert tout mon sac, ils m'avaient pilé. Ah, c'est celui-là, hein. Ben oui, là, en militaire.
Mmh. Alors, oui, surtout que Madeleine, vous étiez vraiment une belle plante.
Oui, hein. Oui, oui, j'étais, alors attendez, alors la fille, là, il avait la photo. Alors il disait, t'as pas honte, hein, tiens. Alors la fille, elle disait.
Oui, la prostituée?
Oui. Elle lui disait, mais t'as vu ta gueule? À côté de la gueule de lui, là. Tu l'as vu, ta gueule? Eh ben, ça craint pas qu'elle aille se coucher avec toi, t'es bien trop moche. C'est drôle, hein. Il y a 57 ans, hein. Alors, qu'est-ce qui t'a plu chez ce boche? Il l'avait en velours. Alors, moi, je disais rien. La prostituée, elle disait, oui! Et c'est la première fois qu'elle envoyait une en velours. Mais elle m'avait soutenue. Je la reverrai, cette femme, elle est peut-être morte, hein. Elle avait 7-8 ans plus que moi, hein. Et elle m'avait prise sous son aile, vous voyez.
Et elle travaillait dans un bordel
d'où? Oui, à Gap. Ben, elle travaillait au bordel. Puisqu'elle disait, espèce de con, faites perdre du pognon. Mon cul, il est international. Aujourd'hui, je serai avec les Américains. Est-ce que j'en ai à foutre de votre connerie? Ah mais oui, ça j'ai vécu, hein, attention. Hein. Alors c'est là qu'elle leur disait, vous me reprochez quoi? C'est mon métier. Hier, c'est les Italiens, elle lui a dit. Les Italiens. Et aujourd'hui, les Américains, si j'étais pas là. Elle avait mis, mais puis alors quand elle est passée devant le colonel. Est-ce qu'on va me fusiller? Alors il rigolait, il avait la cinquantaine, à côté de nous, c'était un vieux. Il m'a dit, non, on va pas vous fusiller. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Il m'a dit, oui, mais vous excitez, là, hein, colonel, hein. Vous leur dites deux mots, hein. Parce que, y en a marre, hein. Et puis, la petite, là, ils font que l'embêter, hein. Parce que ce petit con, là, celui qui a pas de dents, là, il disait, si vous pouvez se l'envoyer, la petite, il n'y manquerait pas, hein. Et le colonel m'a dit, on va vous mettre dans un camion, puis vous rentrez chez vous. Ils m'ont lâché comme ça. Et on s'est séparés. Après, ben, ils nous ont entendus. Ils nous ont entendus toutes les deux, hein. Quand on s'est quittés, je lui dis, je avais pleuré, je lui avais dit, écoute, on s'est rencontrés, mais je te demande pardon, c'est à cause de moi que tu, parce que moi, j'en avais eu qu'un, allemand. Elle avait tout le truc, hein. Elle me dit, mais je t'en veux pas, mais tu vas pas pleurer pour ça, j'en ai rien à foutre. Je m'achète une perruque, moi, dans 3 mois, j'aurai la cause, t'inquiète pas, ça m'empêchera pas de travailler. Ils nous ont tendus sur la place publique, à la mur, sur le parvis de la mairie, un dimanche matin. Et quand on passe là, dans ce village, dans ce pays là, eh bien moi je regarde pas, je suis dans la voiture, je ferme les yeux le temps qu'on traverse le village et surtout devant la mairie. Voilà, je préfère pas. Ah oui, ben oui, bébé, mets-toi à ma place.
La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tendu le crâne rasibus, son penchant prononcé pour les ichlibediches, pour les ichlibediches. Lui valut de porter quelques cheveux postiches, les braves sans culotte et les bonnets phrygiens, et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœur perdus, ces accroche-cœur perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière. Je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière.
Alors, en 1964, Georges Brassens chantait cette chanson qui fit beaucoup de bruit à l'époque et disait comment cet accroche-cœur était sa légion d'honneur. Les choses ont bien changé. Les hommes courent aujourd'hui après des légions d'honneur, des vraies légions d'honneur. Ça paraît désespérant, mais c'est ainsi. On retrouve Mandoline, donc cette femme qui fut tondue et qui a le courage aujourd'hui de raconter, parce qu'après tout, elle aurait pu se faire oublier. Mais elle éprouve le besoin, comme une nécessité de témoigner de ce qui a été, de ce qui est évidemment une terrible injustice, et qui permet aussi de montrer le chemin parcouru depuis cette longue émancipation de la place des femmes dans notre société. En même temps qu'on tondait les femmes en 1944, en même temps on leur octroyait le droit de vote. Dans les années qui ont suivi, c'était plutôt retour au foyer, sur l'idéologie communiste et catholique de l'époque. Il faudra attendre le planning familial, le contrôle des naissances, etc. Toute une histoire qui continue aujourd'hui. Cette émancipation est en cours. Mais la mémoire de Mandoline contribue à montrer ce chemin parcouru.
C'était en août, mais je peux pas vous dire la fin août, quoi. En 44.
Vous vous souvenez précisément?
Je me rappelle, oui, parce qu'ils nous jetaient des pierres, et des pierres grosses comme ça. La marée chaussée nous a accompagnés jusqu'en haut, comme si on allait à l'échafaud. Alors ils nous ont mis sur une chaise, et puis avec la tondeuse, hop. Et puis il y avait toute la foule qui était là, qui hurlait, sale boche, salope. J'ai pleuré, mais ils n'ont pas vu quand j'étais comme ça et que je voyais mes cheveux qui tombaient. Parce que j'avais les cheveux, attention, les cheveux qui tombaient. Et les cheveux, ils les ont mis dans un papier, comme ça, ils me les ont jetés par la figure. J'ai repris le papier, j'aurais foutu par la gueule. Tac, j'ai dit, gardez-les. En souvenir, taf, là-haut, sur l'escalier. Et puis là, les gendarmes nous ont ramenés dans l'école.
Il y avait beaucoup de foule autour.
Oh, il y avait tout le village. C'était glamour. Il y a quoi?
Oui, c'est beaucoup. Oui.
Tous les habitants de la ville. Et puis c'était l'attraction de la libération. C'était l'attraction. Encore, on a eu de la chance, qu'ils nous aient pas foutus à poil, parce qu'ils en promenaient toutes nues et ils les tendaient les nues. Et nous, ils nous avaient pas déshabillés. Mais oui. Mais nous, les gendarmes, ils nous avaient bien protégés. Moi, il y en a un, il me tenait le bras. Il me disait, je me rappelle, reste à côté de moi, baisse la tête, dis rien. Baisse la tête et dis rien, ça va être fini. Je vais vous dire clair. D'en reparler comme ça, ça me traumatise maintenant. Je veux plus en entendre parler.
C'est vous, là?
Eh oui.
Qu'est-ce que vous êtes jolie.
Ah ben oui.
Oh,
et puis ça, c'est donc...
Ravissante. Alors, vous avez une jupe à pois.
Oui, rose et blanche.
Rose et blanche.
Rose à pois blanche. Et puis...
Avec un beau bouquet.
Un beau bouquet. Attendez, je vais vous faire regarder, petit. La petite Claire, voilà.
Oh, c'est quoi, ça?
C'est les deux œillets du bouquet.
Oh, c'est votre bouquet de mariage. Vous avez gardé deux petites fleurs, là.
49. Alors, 49, il a combien, là?
Le bouquet, il a 49, quel âge?
49, 52, 52, 80, 52, 52 ans.
52 ans. Les deux petites fleurs, là.
Touchées, elles ont 52 ans.
Ah ouais. Oh, vous avez un très beau sourire.
Alors là, j'ai donc 49, j'ai 28 ans et Siegfried 29.
Super.
C'est lui qui a écrit ça, c'est lui qui a fait l'album.
Ah oui. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, lui, en Allemagne?
Il travaillait dans un journal. Il était au service de l'expédition. C'était difficile à l'époque, hein. Puis c'était tout cassé, hein. Moi, je suis arrivée en 49, il y avait rien du tout, hein. Il y avait que des cabanes en bois, que des magasins en planches. Ils avaient encore l'étiquette d'alimentation, hein. Et puis Munich avait été quand même bombardée, hein. C'était très abîmé, hein. Il n'y avait pas une famille que j'ai connue en Allemagne, moi, qui n'avait perdu un membre pendant cette guerre. Un mari, un fils, un frère, un fiancé, un enfant. Je suis restée 6 ans. Ils n'ont jamais parlé de la guerre. Jamais. Même entre eux, ils n'en parlaient pas. C'était une mauvaise période de leur vie, à tous. Et ils n'en parlaient pas. Je me regarde les cheveux, là.
Des cheveux superbes.
C'est après la tonte, ça. Oh, Dieu. Vous voyez, 44, on est en 49, ça faisait 5 ans.
Oui. Vous êtes en train de vous regarder dans un miroir.
Dans la glace, oui.
Il est penché sur vous. C'est une belle photo. Vous êtes en maillot de bain tous les deux,
oui,
à la piscine.
À la piscine.
Et puis, il vous brosse les cheveux.
Oui, oui.
Comment ça, pourquoi vous êtes séparés? Parce que vous êtes séparée avec Siegfried.
Ben oui, mais je pouvais plus vivre là-bas. Je pouvais plus vivre. J'ai pris la Heimweh, j'ai pris le mal du pays. J'ai pas pu bien m'habituer. Parce que c'était un autre genre de vie. Il aurait fallu qu'on vive en Alsace. En Alsace, on se serait jamais quitté. Et puis, il est mort à 59 ans. Un cancer foudroyant. Et il est mort le 16 août. 59 ans. Enfin, voilà.
Enfin, voilà. Merci, Mandoline. C'était un reportage de Claire Terre, Technique Aujourd'hui, Patrick Henry et Étienne Mishka. Le répondeur, le numéro, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Christophe Humbert qui s'en occupe. Les musiques, c'est Koyen Guyen qui les choisit et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.